Merci. Ben, merci l'invitation. Encore une fois, je tiens à remercier ASFA 21, la Rosa Luxembourg Stiftung, le Forum Civique et bien sûr tout particulièrement la Fondation Gabriel Péri pour l'invitation, pour l'occasion qui m'est donnée d'échanger avec vous sur un certain nombre de préoccupations qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on est confronté ici ou là sur la planète aux mêmes enjeux, aux mêmes problèmes, aux mêmes diagnostics, aux mêmes défis, aux mêmes inquiétudes. Et l'idée, c'est de faire mettre en commun nos expériences, nos points de vue sur cette situation face à laquelle on est, c'est-à-dire un modèle d'exploitation extractiviste stéréotypé, standardisé, qu'on tente à imposer aujourd'hui d'une manière semblable à tous les peuples du monde, autant au Québec qu'en Indonésie, qu'au Mali, qu'au Brésil, qu'en Roumanie. On est fait face aux mêmes discussions. Personnellement, j'ai travaillé sur la question minière un peu par accident il y a une dizaine d'années, puisque j'ai pris conscience du fait que la plupart des sociétés canadiennes sont canadiennes. Et à partir de là, j'ai été témoin de, pas personnellement, mais disons que j'ai pris connaissance de beaucoup de dossiers concernant les sociétés minières dans le monde, surtout quand elles provenaient du Canada. Et j'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup de témoignages. Des témoignages qui venaient du Mali, du Guatemala, de Tanzanie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Roumanie, de Grèce, de Turquie, du Burkina Faso, et ainsi de suite. Et ce qui est saisissant, c'est à quel point, à chaque fois, les témoignages se ressemblent. Et il est, je pense, important de comprendre, lorsqu'on est confronté à une société minière, qu'on n'est pas seul. Hélas, on n'est pas seul, mais en même temps, heureusement, on n'est pas seul. Hélas, parce que le phénomène est largement aujourd'hui diffusé, mais malheureusement, mais heureusement, il y a lieu de se concerter et de comprendre que des populations, des communautés ont résisté dans le passé aux sociétés minières et ont parfois eu gain de cause. Il y a lieu de triompher des sociétés minières lorsqu'on s'organise bien et qu'on a un peu de chance de son côté. Tout récemment, je suis allé à Grenoble. J'ai présenté ce qu'il en est du Canada quant à l'industrie minière. Et après mon intervention, il devait y avoir un film. Je n'avais jamais vu le film. C'était sur une mine en opération en Amérique du Sud. Et mon intervention, en quelque sorte, prédit tout ce qu'il y avait dans le film. Pas parce que je suis un devin, et pas parce que je prédis l'avenir, mais tout simplement parce que les cas se ressemblent tellement qu'à force d'en rencontrer, on finit par comprendre quelle est la matrice générale des sociétés minières, la façon générale qu'ont les sociétés minières de fonctionner. Et c'est toujours à peu près les mêmes problèmes. Avant même qu'une minière arrive, quand les sociétés minières convoitent le sous-sol d'un pays, parce qu'aujourd'hui dans le monde, on a quand même une idée des ressources et des richesses minières que peuvent contenir les différents pays. Lorsqu'on se dit, bon, ben là, il y a un marché dans tel pays, il y a un intérêt dans tel pays, plus récemment, ça a été le Burkina Faso, par exemple, qui n'avait pas vraiment une grande tradition minière et qu'on a ciblé, ça peut être des pays d'Amérique du Sud, ça peut être des pays d'Europe de l'Est. Eh bien, avant même que ça commence, il y a une pression qui est faite sur les autorités du pays pour qu'elles aménagent un cadre qui soit en amont, avant que quoi que ce soit ne commence, un cadre qui soit avantageux pour l'industrie minière. Donc avant même que ça commence, la Banque mondiale, la diplomatie canadienne, différents lobbies dans le secteur minier vont amener les États responsables des territoires convoités à aménager un cadre qui permettent aux entreprises de se déployer dans une sécurité légale et dans un certain nombre d'avantages économiques et fiscaux dont elles ne se priveront pas de bénéficier. Souvent, ça passe par un mélange de corruption et de menaces. Hein? On vous donne... On intervient auprès d'un ministre influent, auprès d'un fonctionnaire influent, auprès d'un président, auprès de décideurs publics, auprès de chefs de communauté locale, auprès de tous ceux qui peuvent favoriser une décision qui va dans le sens de la société minière ou des sociétés minières ou de l'industrie. Et on s'assure qu'il y ait en amont un cadre qui prévoit, par exemple, une exonération d'impôts, une exonération sur les droits de douane, une exonération sur un certain nombre de taxes qu'on devrait normalement payer, taxes sur le pétrole, droits de douane sur l'importation de matériaux lourds dont on a besoin pour mener à bien une exploitation, exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés, ainsi de suite. On met sous pression les autorités pour qu'elles accordent des droits aux entreprises qui ont des prétentions quand vient le temps d'explorer un territoire. Par exemple, le code minier malien sépare la propriété du sol, la propriété du sous-sol. C'est une clause dont profitent énormément les sociétés minières parce que ça leur permet d'aller sur la propriété de quelqu'un et de dire « Toi, tu es peut-être le propriétaire de cette terre est peut-être à toi, puis elle est peut-être à tes ancêtres, mais ça tombe mal parce que moi je suis propriétaire du sous-sol. » Toi, tu n'es propriétaire que de la surface. Et on a scindé les titres de propriété de façon à ce que la surface soit pas, réponde pas du même droit que le sous-sol, c'est-à-dire la terre. Alors, on peut, en vertu de ce droit-là, mener des travaux d'exploration sur la propriété de quelqu'un sous prétexte qu'on est propriétaire de ce qu'il y a en dessous. Et évidemment, on pourra aller voir ce qu'il y a en dessous ou passer par-dessus, mais ça, le droit en fait abstraction, quoi. C'est-à-dire... Ou s'il n'en fait pas abstraction, il donne préséance au droit du sous-sol sur le droit du sol quand vient le temps d'explorer. Bon, et ensuite, vous vous imaginez qu'il y a des processus qui sont mis en branle pour exproprier les détenteurs d'actifs fonciers, c'est-à-dire les propriétaires d'une terre, quand on découvre qu'une mine serait profitable si on l'exploitait là où se trouve la dite propriété. Ainsi de suite, je veux dire, l'accès à l'eau, l'accès à différentes formes d'énergie, le soutien de l'État quand vient le temps d'aménager des infrastructures nécessaires à l'exploitation minière. Par exemple, dans les années 80, le gouvernement du Canada a été très actif et influent dans la création des barrages de Diama et de Manantali en Afrique de l'Ouest, sur le fleuve Sénégal, avec le concours des gouvernements maliens, sénégalais et mauritaniens. Et en fait, on a prétendu que c'était pour alimenter en électricité quelques villes et de favoriser l'irrigation, alors qu'en réalité, on voulait alimenter en énergie la CEMOS, qui exploitait une mine à Sadiola, dans un consortium constitué de IAM Gold, une société canadienne, Anglo Gold, une société sud-africaine développée sous l'apartheid, et quelques intérêts minoritaires maliens. Et en fait, les infrastructures sont faites souvent au coût, en engageant des coûts publics ou des fonds d'aide au développement qui ne profitent pas à la population et qui souvent sont inscrits au passif des budgets d'État. Et tout ça va dans le sens d'un développement du territoire, d'un développement de l'État, d'un développement des infrastructures, d'un développement de la loi en fonction des sociétés minières qui ont des attentes et des contraintes particulières lorsqu'elles entendent exploiter un territoire. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est au moment de l'exploration. Là, les mauvaises nouvelles continuent de s'ajouter quand on exploite. Là, quand on exploite, on exproprie les gens. On dynamite. Quand c'est une mine d'or à ciel ouvert, on procède selon des quarts de travail dits du 3-8, c'est-à-dire ce sont trois quarts de travail de 8 heures qui se succèdent tout au long de la journée, de sorte qu'il y a toujours du travail, il y a toujours des camions, il y a toujours du dynamitage. C'est un enfer pour les populations. Il y a de la poussière au point de créer des maladies pulmonaires, parce qu'on n'est pas destiné, nous, être humain, à respirer comme ça de la poussière en abondance. Il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent quand on constate qu'il y a des particules toxiques respirables qui se mêlent à la poussière et qui engendrent des maladies pulmonaires graves. Il y a des problèmes sociaux aussi. Quand une mine est en opération, on observe très souvent dans le même pays du monde des bouleversements démographiques. C'est-à-dire que soudainement, les populations vont bouger, abandonner leurs terres, abandonner l'agriculture, se masser aux portes des sites minier dans l'espoir d'avoir un emploi contractuel, surtout quand on nous a souvent promis le Pérou avec ces exploitations-là, ce qui crée un engorgement, des tensions sociales entre ceux qui se considèrent de la communauté et ceux qui sont considérés étrangers à la communauté. Souvent, la prostitution se développe, le sida, les dispensaires ne fournissent pas, les infrastructures publiques sont souvent fragiles, ne fournissent pas. Il y a un abandon de l'agriculture. On se rend compte en plus que souvent l'exploitation a lieu sur des terres arables qui ne sont pas exploitées, qui sont même à terme contaminées parce qu'on utilise du cyanure, du mercure pour exploiter le minerai. Souvent se dégagent du sol des produits toxiques qui sont là, inoffensifs pour nous tant qu'on les laisse sous le sol. Mais du moment que ces éléments-là, comme l'arsenic, se trouvent au contact de l'air ou de l'eau, ils deviennent toxiques pour nous. Les populations se trouvent souvent divisées. C'est une stratégie souvent utilisée par les sociétés minières, c'est-à-dire que pour avoir accès à la propriété, pour pouvoir, soit on exproprie violemment ou soit on achète les propriétés foncières, très souvent on va diviser la population. Il va y avoir d'une part ceux qui sont pour un accommodement avec la société minière pour avoir un emploi, pour avoir un actif. Et d'autre part, il va y avoir la partie de la communauté qui sera réfractaire au projet parce qu'on craint pour l'avenir, parce qu'on craint pour l'avenir des écosystèmes, l'avenir même des communautés, pour l'avenir de certaines pratiques et aussi pour l'avenir d'une communauté en tant qu'elle est constituée politiquement. D'un point de vue écosystémique, les conséquences sont souvent graves. Déboisement, déstructuration, déforestation, érosion des sols, contamination des sols, pollution aérienne, la poussière dont j'ai parlé, la disparition de la flore, de la faune, ainsi de suite. Et donc, tout peut dégénérer en tension grave, en guerre civile. On l'a vu en Mauritanie, on l'a vu en Sierra Leone, on l'a vu en Angola, on l'a vu au Congo-Kinshasa. C'est-à-dire que les projets d'exploitation minière peuvent dégénérer en tension vive, voire en crise, voire en conflit armé entre des communautés. Et très souvent, les sociétés en profitent. J'ai parlé de tous ces points hier et je crois qu'ils sont connus. Je crois que si on se réfère à ce qui s'est passé ici, ne serait-ce qu'à Sadiola ou Ayatella, ou si on considère le cas de l'African Gold Group dans le cercle Kangaba, si on considère ce que fait la CEMOS, si on considère d'autres projets, on se rend compte que un projet minier est facteur de perturbation, est facteur de tension, est facteur d'inquiétude, et très souvent pour des raisons fondées. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, une fois qu'on rappelle ce contexte-là, c'est d'aller plus loin et d'essayer d'expliquer, de comprendre, de cerner quelles sont ces entreprises. D'où viennent-elles? Que veulent-elles? Quelles sont leurs arrière-bases, leurs points d'ancrage, comment elles se présentent, comment elles sont immunisées. Il faut voir que réfléchir au code minier malien est une chose, c'est très pertinent, il faut le faire. Il faut voir que le droit malien n'est pas le seul qui entre en vigueur quand on fait face à une société minière. Le droit du pays où la société est enregistrée compte aussi, a aussi des incidences. Parce que si on veut obtenir réparation en cas de dommage, si on veut Si on veut comprendre, au fond, comment est soutenue une société, qu'est-ce qui fait son pouvoir, il faut comprendre d'où elle vient. Et pas seulement où elle arrive, c'est-à-dire chez soi. Elle arrive chez soi, et quand elle arrive chez soi, elle est accueillie par un droit, par un État, mais elle est aussi déjà constituée par un autre droit dans un autre État quand elle se présente. Et en ce qui concerne les sociétés minières, la grande majorité d'entre elles sont formellement canadiennes. Je rappelle que 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. C'est-à-dire que 3 sociétés minières sur 4 dans le monde viennent du Canada. 60% des sociétés minières qui sont cotées en bourse, je vais y revenir tout à l'heure, là, mais desquelles on peut acheter des actions, sont cotées en bourse à Toronto. Et 90% des échanges d'actions, de titres de sociétés minières qui se font dans les marchés financiers dans le monde se font aussi à Toronto. Et je vais vite expliquer ce qu'il en est. Ouais. Déjà, il faut comprendre que si les sociétés minières sont majoritairement canadiennes, les investisseurs, les instigateurs de ces sociétés-là ne sont pas toujours, eux, canadiens. C'est-à-dire que le Canada est une zone administrative de prédilection pour les investisseurs miniers. Un peu comme la Suisse l'est pour les banques ou le Liberia pour le transport maritime. C'est-à-dire que le Canada est une sorte de paradis réglementaire, judiciaire et fiscal pour les sociétés minières mondiales. On vient d'ailleurs pour s'enregistrer au Canada afin d'exploiter des mines qui sont elles aussi ailleurs. De la même manière que des banquiers qui sont à l'extérieur des Bahamas vont créer des banques aux Bahamas ou en Suisse pour mener des opérations qui se passent à l'extérieur des Bahamas ou de la Suisse. Un paradis, c'est simplement un lieu d'enregistrement pour profiter d'avantages réglementaires, législatifs, politiques, diplomatiques, financiers, fiscaux, sans nécessairement qu'il y ait d'opérations concrètes qui se passent dans cette législation-là, dans ce pays-là. Les investisseurs du secteur minier qui se trouvent, certes au Canada, mais aussi en Australie, en Israël, en Suède, je pense, en Israël, ce serait toutes les entreprises de Danjerclair, en Suède, ce serait la Lundin, en Belgique, ce serait les sociétés de George Forest ou la Katanga Mining, en France, Areva, aux États-Unis, une myriade de sociétés. Ces sociétés-là choisissent de s'enregistrer au Canada, même si elles n'ont aucune opération concrète au Canada. Il y a 40 000 en Ontario, il y a 1600 sociétés qui sont enregistrées là-bas. Les 1600 sociétés, ça ne charme pas, ce sont les 40 000. C'est-à-dire qu'elles choisissent de s'enregistrer au Canada parce qu'il y a un cadre avantageux qui leur permet ensuite de se présenter au Mali, de se présenter au Burkina Faso, de se présenter en Tanzanie, de se présenter en Guinée, de se présenter en Algérie et de dire, voilà, nous, on convoite telle mine et on se présente comme société canadienne, en droit. Mais de fait, notre actionnariat peut se trouver partout, puis nous, les investisseurs qui ont créé la société peuvent également être du Royaume-Uni, bon. Ou d'ailleurs, de France, ou d'ailleurs. Pourquoi passer par le Canada et en quoi c'est un vrai problème? Bon, pourquoi, par exemple, un investisseur belge qui veut exploiter du cuivre au Katanga passe par Toronto? Il y a tout un détour. Il fait froid, pas toujours... La première raison, il y en a 4 essentielles, en tout il y en a 6. Malheureusement, je n'ai pas pu en apporter avec moi parce que j'ai transité trop rapidement par Paris, mais tout ce que je dis là peut être retrouvé dans un livre qui est édité en France. Est-ce qu'on avait laissé un bouquin à ma dernière fois? Oui. Donc, vous pourrez trouver un exemplaire pour consultation à la ruche et ou par des contacts, vous procurer Paradis sous terre et Noir Canada. Ce sont 2 livres que j'ai faits qui détaillent ce que je vais résumer aujourd'hui. Bon. Et Noir Canada, vous pouvez le trouver.
Noir Canada, vous pouvez le trouver sur Internet, ouais. Sur papier.
Tout à fait, c'est plus facile. Donc, la première raison, et ça c'est vraiment important, là, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a deux façons de faire de l'argent quand on est un investisseur minier. Il y a la façon la plus connue et la façon la moins connue. La façon la plus connue, c'est la plus spectaculaire, c'est celle qui consiste à aller dans un pays, obtenir des permis, souvent par le biais de la corruption, ainsi de suite, obtenir un permis pour explorer, pour exploiter quand il y a de la richesse dans une mine, des minerais, les extraire et les vendre sur les marchés. Hein, on vend du coltan, on vend de l'or, on vend du cuivre, on vend des diamants. Et là, évidemment, c'est un processus commercial classique. On a des clients à qui on vend les minerais qu'on a extraits, on fait du profit, on donne presque rien au pays duquel on a extrait les minerais. On place le profit dans les paradis fiscaux, puis on fait de l'argent, on roule sur l'or, on est heureux. Bon. Ça, c'est la première façon de faire de l'argent. La deuxième façon est plus subtile, mais importante de la comprendre, parce que souvent, les peuples africains font les frais de cette exploitation-là sans le voir, parce que c'est une façon invisible de s'enrichir, et c'est la spéculation boursière. C'est très important de le comprendre. Une société qui se présente à vous est très souvent cotée en bourse. En anglais, ils disent « to be public ». C'est une expression que j'aime pas trop parce que ça crée une confusion avec les institutions d'État qui sont publiques en français. Mais ça se peut que vous tombiez dans des documents en anglais sur cette expression-là, « to be public » ou bien pour être coté en bourse. Ça veut dire que la société minière, le plus souvent à Toronto, émet des actions. Les actions, c'est des bouts de papier. Ça vaut rien en soi. C'est un lien de propriété à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, en quelque sorte, émet des bouts de papier qu'elle vend à des actionnaires. Les actionnaires, souvent, c'est des gens fortunés, des gens qui ont un peu d'économie. Ça peut être aussi des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des fonds de retraite, des compagnies d'assurance, des banques, des grands acteurs financiers puissants qui ne font que ça, qui achètent, qui vendent des actions. Et une action, c'est un pourcentage, pour résumer, un pourcentage de propriété de l'entité. Si l'entité émet 100 000 actions, 1 million d'actions, 5 millions d'actions, une action, c'est 1/5 millionième des actifs du groupe. Un bout de papier qui dit « moi, je suis propriétaire à hauteur de tant de pourcents de la société, de l'entreprise ». Et donc, l'entreprise émet des actions. Elle les vend. C'est des bouts de papier. Au début, elle peut les vendre 3 cents, 3 centimes de dollars. 5 centimes de dollars, rien. On peut en acheter 100 000, ça ne coûte pas si cher. Mais l'idée, c'est d'obtenir une annonce. C'est de dire, sur les marchés financiers, par un communiqué de presse, dans un article, dans un journal, à la télévision, dans les chaînes économiques, dans toutes sortes de réseaux qui sont ceux des courtiers qui vendent des actions professionnellement, c'est d'annoncer qu'on est propriétaire d'une mine d'or au Mali qui est censée valoir énormément et on prétend que d'ici 10 ans, on va faire 1 milliard d'actifs grâce à cette mine-là. Et là, tout d'un coup, le bout de papier qu'on avait vaut plus 3 cents, il vaut 4,5 $. Parce que les gens veulent ce bout de papier-là parce qu'il est lié à la propriété qui fait l'objet d'une convoitise. C'est que tout d'un coup, là, l'action vaut beaucoup parce que les spéculateurs vont l'acheter parce qu'ils disent « cette société-là, si on est propriétaire de cette société-là à hauteur de 0,5%, 2%, 5%, 20%, si on est propriétaire parce qu'on a acheté des actions, des bouts de papier, là, si on les a amassés, à ce moment-là, on va pouvoir prétendre au revenu de cette entreprise-là quand elle va être bénéficiaire, quand elle va exploiter son or et qu'elle va le vendre un jour, on va pouvoir, nous, avoir une partie de ce profit-là. » Et ça, c'est invisible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces actions-là sont vendues, achetées, revendues, réachetées sur les marchés avant même qu'il y ait une pelletée de terre sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas creusé, on fait juste dire qu'il y a de l'or, on fait juste dire qu'il y a du cuivre, on fait seulement dire qu'il y a du zinc, que déjà, on convainc les investisseurs qu'il vaut la peine d'acheter le bout de papier, parce que peut-être qu'un jour, l'entreprise va être rentable. Et sur la base que peut-être qu'un jour, l'entreprise va être rentable, ce bout de papier-là va être revendu éternellement. C'est une bonne action parce qu'elle est étalonnée sur une mine de cuivre, sur une mine d'or qui est réputée rentable. Et ça peut durer là, des années. Et souvent, la plupart des projets, la majorité des projets qui sont annoncés sur les marchés ne sont jamais exploités. Alors, on a des peuples ici qui font face à du dynamitage, ne serait-ce que pour l'exploration, à un phénomène de pollution qui est lié à l'exploration, à un certain nombre de problèmes, à des rumeurs, à des tensions, à tout ce que j'ai énoncé, à des espoirs aussi, tout simplement parce que des spéculateurs se vendent des bouts de papier sur la base d'une promesse qui ne sera jamais peut-être réalisée. Et le Canada favorise cette spéculation-là. Le Canada favorise cette spéculation-là de deux manières. D'une part, le Canada rend possible sur les marchés, je vais être un peu technique là, mais une divulgation d'informations lâche. C'est-à-dire qu'une entreprise sur les marchés au Canada, plus qu'aux États-Unis par exemple, peut jouer au bonimenteur. C'est-à-dire peut vendre la mine avec, par rapport à plus de paramètres que dans d'autres pays. Elle peut dire, ma mine, la mine que j'ai acquise au Mali, regorge d'or dans telle mesure, si on l'exploite de telle manière, elle va en avoir encore plus, ainsi de suite, et laisser miroiter plus de valeur que dans d'autres pays. Pour être technique, là, au Canada, on peut parler autant des réserves que des ressources, alors qu'aux États-Unis, on ne peut parler que des réserves d'une mine. Les réserves d'une mine, c'est ce qu'une entreprise entend réellement exploiter en vertu d'un plan industriel reconnu. Hein? Je vais mettre en application ce plan d'exploitation industrielle-là qui va m'amener à extraire cette richesse-là que je vais écouler sur les marchés. Et voilà ce que je compte entreprendre. Les ressources, c'est tout ce que comprend la mine. Ça laisse à penser que si les cours augmentent, si la technologie évolue, on pourrait exploiter un peu plus. Et ça permet aux sociétés privées, aux entreprises, de vendre leurs actions sur un mode plus avantageux parce qu'ils peuvent mettre en valeur un peu plus leur action. Mais le deuxième point, surtout, qui est plus important, c'est que le Canada subventionne l'achat d'actions. C'est-à-dire qu'au Canada, quand des actionnaires, quand des investisseurs hésitent, ils disent, on a 500 millions à dépenser aujourd'hui, c'est les volumes qu'on a, est-ce qu'on achète des actions minières ou on achète des actions dans le domaine des éoliennes? Est-ce qu'on investit dans l'économie solidaire et locale ou on investit dans les multinationales de l'or? Ben, si elles investissent dans les multinationales de l'or, ces sociétés-là vont avoir un retour des avantages fiscaux. Ils vont avoir droit, c'est ce qu'on appelle les actions accréditives, hein, c'est un programme, ils vont avoir droit à de déclarer de leurs revenus un certain nombre d'achats de titres. Et ils vont même avoir des retours supérieurs. Et là, je pourrais aller dans le détail, c'est très technique, mais c'est qu'au Canada, les sociétés minières peuvent tellement déduire de leurs revenus des formes de dépenses que très souvent, elles excèdent 100%. Très souvent, à la fin d'une année, une société minière peut déduire 130, 140% de son revenu et la tranche qui excède le 100%, elle peut le faire rejaillir sur ses investisseurs. Donc, les investisseurs qui achètent son action peuvent se réclamer du 30, 40, 50% de déduction fiscale que l'entreprise ne peut même pas utiliser puisqu'elle a atteint son 100%. À leur compte, ce qui fait qu'indirectement, l'État, c'est le principe qu'on peut retenir, l'État subventionne l'achat de titres miniers d'une manière spéculative. Donc, quand des investisseurs, des sociétés d'assurance, des grandes banques, des fonds de retraite, des grands spéculateurs là, comme Warren Buffett, là, ou des fonds de l'État, hein, les fonds publics qui gèrent la retraite des fonctionnaires, par exemple, les fonds syndicaux, comme le Fonds de solidarité du Front des travailleurs du Québec, ainsi de suite, vont investir dans le domaine minier parce qu'ils ont un avantage fiscal qu'ils n'auraient pas s'ils investissaient dans d'autres secteurs. Donc, ce qui explique qu'au Canada, à Toronto, il y a ce qu'on appelle en anglais de l'argent facile, l'easy money. Et il y a un bottleneck pour l'industrie minière, il y a une canalisation, une concentration de l'argent, de sorte que lorsqu'une société australienne, suédoise, israélienne, belge, française, américaine veut investir au Mali, elle va s'enregistrer au Canada parce qu'il y a beaucoup d'argent pour les titres miniers. C'est-à-dire que lorsqu'on émet des titres miniers, on trouve rapidement preneur. On n'a pas, l'action ne tombera pas très bas parce qu'il y a de l'argent pour ce type de spéculation-là. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est important de le comprendre, parce que très souvent, vous allez avoir des gens qui vont mettre une clôture autour d'une terre, vont avoir chassé des gens, vont avoir fait du carottage et des expériences pour voir s'il y a une mine, et on attend des années avant que quelque chose se passe, il ne se passe rien. Mais pendant qu'il ne se passe rien, il y en a qui s'enrichissent de l'autre côté. Parce qu'ils vendent du rêve. Ils vendent le rêve à savoir l'enrichissement potentiel des propriétaires de la mine le jour où on l'exploitera. Et ce rêve-là se vend. Et il se vend avec les subventions de l'État au Canada. Le troisième point a trait... Ça, c'était les deux premiers. Le premier point, c'est qu'il est facile chez nous de divulguer de l'information pour vendre ces titres miniers aux investisseurs. Le deuxième point a trait à la caractère subventionné de cette activité spéculative-là. C'est-à-dire que le gouvernement incite les investisseurs à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. Le troisième point a trait à la pression diplomatique. C'est que lorsque ça se passe mal sur le terrain, je prends un cas de la Tanzanie, Bulyanhulu. La Sutton Mining voulait faire des expériences à titre exploratoire sur une mine. Et les populations ne voulaient pas s'en aller, parce que c'était la terre de leurs ancêtres. Et pour les populations, il n'était pas question qu'on laisse une société dicter à qui appartenait la terre. Donc, elles résistaient, puis il y avait des orpailleurs qui souhaitaient continuer leurs opérations, parce que c'était leur gagne-pain, c'était tout ce qu'ils avaient dans des conditions très difficiles, vous en doutez. Il reste que c'est tout ce qu'avaient ces travailleurs-là. Et en vertu des règles qui prévalent sur les marchés financiers, la Sutton Mining devait, avant une certaine date, expliquer aux marchés financiers où en étaient ses travaux d'exploration. Et évidemment que si elle disait aux marchés financiers « on ne peut pas explorer parce qu'il y a des gens qui estiment que sont sur leur terre ancestrale, ils sont bizarres, hein? Et en plus ils ont une activité économique qui perdure depuis des décennies sur ce site-là, ils ne veulent pas s'en aller, donc nous on ne peut pas commencer », ben les investisseurs auraient dit « cette action-là, elle est menacée, je la vends ». Et plus il y a de gens qui vendent l'action, moins elle vaut cher, c'est l'offre et la demande, là, vous voyez ce qu'il en est. Donc pour éviter d'avoir à dire aux marchés financiers à cette date-là, on ne peut pas explorer parce qu'il y a des gens, la diplomatie canadienne, qui est de mèche avec les sociétés minières canadiennes, a mis sous pression le gouvernement tanzanien pour qu'il exproprie violemment, avec des morts à la clé, cette population-là, pour que sur les marchés financiers, la Sutton Mining puisse dire « nous commençons nos travaux d'exploration ». Donc, la valeur de notre action est sauve. On a mis la main sur une correspondance ministérielle au Mali quant à au site Kabada.
Kobada.
J'en dirai pas plus, mais la référence à Toronto existe. Qu'est-ce que va dire Toronto? Si la société ne peut pas faire ceci, qu'est-ce que vont dire les investisseurs si la société ne peut pas faire cela? Donc, ce qui est en jeu là, c'est la pression psychologique qui vient de Toronto. La pression psychologique qui vient de Toronto, c'est de dire on veut pouvoir dire au marché financier que tout va bien sur le terrain parce que c'est ce qui garantit la valeur d'une action. C'est ce qui va faire qu'on ne voudra pas la vendre, mais qu'on va vouloir la garder. Ou si on la vend, on va la vendre plus cher que le prix à laquelle on l'a acquise pour que sa valeur continue d'augmenter sur les marchés. C'est très abstrait. Hein? C'est de l'abstraction, mais cette abstraction-là gouverne le monde. Beaucoup plus que le fait d'extraire des minerais et de les vendre sur les marchés. La promesse de pouvoir le faire vaut plus que le fait de le faire. C'est à ce point-là. Donc, en Tanzanie, ce jour-là, sous la pression de la diplomatie canadienne qui est de mèche avec les sociétés minières, on a chassé de leurs terres des orpailleurs, des populations qui vivaient leur vie, tout simplement parce qu'il fallait dire aux marchés financiers « tout va très bien, on fait de l'exploration comme prévu, on est dans notre plan » et cela soutient la valeur de notre action, la promesse qu'on vend avec des actions. De la même manière qu'il y a une pression ici qui est faite pas pouvoir dire à Toronto, aux investisseurs, rassurez-vous, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucune tension, parce qu'on a maté les résistants, on les a chassés, on les a expropriés, tout va très bien, et vous pouvez toujours croire que votre action est la promesse, le gage d'un profit futur, parce que tout est en cours pour qu'un jour on exploite en bonne et due forme. Et le Canada, avec la Banque mondiale, avec un certain nombre de partenaires et fonds d'aide internationaux, joue de cette logique-là et met sous pression en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est, les pays pour qu'ils sauvent les conditions de possibilité d'un titre minier fort à la Bourse de Toronto. Le quatrième point est judiciaire. Une société minière qui se retrouve dans un pays qui est responsable de tensions sociales graves, voire de conflits armés, de guerres civiles. Une société minière qui pollue massivement, qui porte atteinte à la santé publique, au point où les populations sont malades, malades de l'existence de la mine. Et parfois, même qu'ils en meurent, ou qu'il y ait le phénomène qu'on a malheureusement observé à Sadiola et Yatela, c'est-à-dire des fausses couches en série en raison sans doute de l'arsenic dans les points d'eau potable, ou lorsque il y a de la corruption qu'on finit par le connaître, ou de la contrebande, ou du trafic d'armes, ou une mobilisation de mercenaires pour mater une résistance armée, ou pour renverser un gouvernement. Si on veut obtenir réparation au Canada en droit, les tribunaux le plus souvent nous disent « Désolé, ça ne nous regarde pas. » Allez obtenir réparation au Mali, allez obtenir réparation au Congo, allez obtenir réparation au Chili, en Argentine, ou au Guatemala, ou ailleurs. Alors que tout a été fait avec des plans d'ajustement structurel, les logiques de gouvernance, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'institution de bien commun fonctionnel je dirais neutre dans les pays en question. En Amérique du Sud, par exemple, les institutions de justice poursuivent les manifestants pour sédition ou pour toutes sortes de chefs d'accusation plutôt que de les protéger. Vous savez que la règle canadienne, j'en parlais hier, stipule, c'est la directive nationale 52-101 pour les intimes, elle stipule que si une société minière dans les pays du Sud provoque des tensions, des crises, des phénomènes de pollution massive, ainsi de suite, elle doit le dire, elle doit l'admettre sur les marchés financiers, dans un communiqué de presse, dire dans un communiqué de presse, on annonce à nos investisseurs et au public en général que notre présence au Mali, que notre présence en Guatemala, que notre présence en Papouasie-Nouvelle-Guinée provoque des tensions, produit des problèmes de santé publique. Elle doit le dire, seulement si c'est de nature à affecter la valeur de l'action. Seulement si les investisseurs doivent être informés de la perte de valeur de leur titre. Mais la loi ne défend que le droit des investisseurs. La loi ne protège que le processus financier. Et quand vient le temps de lutter contre la corruption, quand vient le temps de lutter contre les abus de droits humains, quand vient le temps de lutter contre des crimes, l'ONU, les experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU par rapport au Congo, par exemple, Congo-Kinshasa, l'OCDE, et les instances internationales constatent que le Canada ne joue pas le jeu, ne participe pas, qu'il fait semblant de contrôler l'industrie minière, alors qu'en réalité, il la couvre. Donc, ce sont les quatre points les plus importants. Et ils sont fondamentaux pour les sociétés minières. Parce que les sociétés minières, qu'est-ce qu'elles trouvent au Canada? C'est une base d'impunité. C'est une zone où non seulement on a le droit de tout faire, parce qu'on ne sera jamais joignable. Du moment qu'on se retire d'un pays, on est blindé. C'est-à-dire qu'au Canada, il est très difficile d'obtenir réparation. Donc, le Canada garantit de l'impunité. Il garantit un soutien diplomatique qui fait de la diplomatie canadienne un lobby minier officieux. qui met sous pression les autorités pour favoriser les sociétés canadiennes. Et en plus, il génère du capital. C'est-à-dire que la structure fiscale canadienne génère du capital pour l'entreprise minière. Donc l'entreprise minière, elle est couverte, elle a un gendarme pour elle, elle a des juges complaisants pour elle, pardon, elle a de l'argent pour elle, et elle a un réseau diplomatique pour elle. Et on s'oriente dans le monde vers un mode d'exploitation qui est favorisé par cet État canadien-là, étant donné qu'on s'oriente vers un mode d'exploitation à grande échelle. C'est le gigantisme minier. C'est important, ça, parce que ces grosses structures-là ont besoin du Canada pour s'immuniser, pour se défendre quand elles arrivent à l'extérieur. Le gigantisme minier est à l'ordre du jour depuis que on a épuisé les mines traditionnelles, les bonnes mines, les mines où on creusait un trou, on faisait des galeries, on allait chercher le gisement parce qu'il était abondant, on le remplissait, on mettait le tout dans des camions, on allait le vendre sur des marchés, ça fonctionnait rondement. Aujourd'hui, on est à un point où la demande est très élevée. Elle vient d'Asie, elle vient évidemment d'Occident. Mais il n'y a plus ces mines-là, on les a épuisées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée des cratères énormes, des trous là, dans lesquels on peut mettre la tour Eiffel, pour aller extraire des pépites ici ou là. Une once d'or par tonne de déchets cyanurés, par exemple, en ce qui concerne les mines d'or à ciel ouvert. On creuse des trous énormes, on va chercher de quoi remplir la table de lingots d'or, mais rien de plus. On va avoir fait un trou énorme, on va avoir pollué les nappes phréatiques, on va avoir contaminé les terres, on va avoir généré des terrils, des montagnes de déchets cyanurés. On va avoir tué la faune, tué la flore, on va avoir détruit des écosystèmes pour avoir une table de lingots d'or. Et ça, les petites sociétés ne peuvent pas compétitionner avec ces grandes structures. Et si c'est rentable de le faire, c'est que sur les marchés financiers, les lingots couverts d'or vont couvrir les frais d'exploitation de la mine. Et le système canadien est toujours plus, comment dire, nécessaire à ces grandes entreprises-là pour explorer surtout et pour exploiter éventuellement. Et je voudrais finir sur ce qu'il me semble relever de ce que peuvent faire les populations. Les populations au Mali, les populations au Québec, les populations au Brésil, les populations en Turquie, en Roumanie, en Indonésie. Nous sommes tous dans le même bateau. Les structures, les codes dont je vous parle sont vérifiables, hélas, partout. Et une des choses qu'il faut faire, il me semble, c'est de subordonner, j'utilise des mots un peu, de manière un peu générale, là on pourrait nuancer, mais d'une manière générale, je dirais qu'il faudrait subordonner la géologie à la géographie. La géologie telle que mobilisée dans l'approche extractiviste, minière et pétrolière, consiste à attribuer de la valeur à un élément en tant qu'il est extrait d'un milieu. C'est ça que fait le géologue, c'est qu'il isole les éléments d'un territoire. Un géologue qui arrive sur un site, il ne voit pas l'économie du site. Il va voir de l'eau, du zinc, du coltan, de l'or, des diamants, ainsi de suite. Et l'approche géologique consiste à penser cet isolement-là, à réaliser l'isolement, c'est-à-dire à aller chercher l'élément du paysage que l'on souhaite obtenir, à filtrer le reste, et à prendre cet élément-là et à lui conférer de la valeur dans un déplacement. On va le transporter dans des marchés où il aura de la valeur, parce qu'il a à des fins industrielles ou spéculatives ou aux fins du luxe, des produits de luxe, comme l'or, on pourra en faire un élément, une marchandise. La géographie, elle, pense tout autrement. Un géographe qui voit un site considère les éléments en tant qu'ils ont de la valeur dans leur relation réciproque. Un cours d'eau n'est pas pensé indépendamment de la terre qui le canalise. Les éléments sont pensés ensemble, une économie de l'espace. Et évidemment, pour un géologue, la valeur a trait à cette économie de l'espace. à cet écosystème en tant qu'il est opératoire. Et en nier la réalité, en nier la valeur, est un acte, disons, plutôt géologique, même s'il y aurait lieu de nuancer. Vous savez que... Enfin, je pourrais revenir sur d'autres considérations plus tard. Et quand on considère les choses ainsi, quand on considère ce qu'il en coûte en termes de saccage, en termes d'externalité, en termes de destruction, hein, de détruire, de profaner un paysage pour aller chercher des ressources, il faut au moins s'assurer qu'il soit pertinent d'extraire ces ressources-là autrement que d'un point de vue économique. Parce que d'un point de vue économique, les seuls qui vont en profiter, c'est les investisseurs de Toronto. C'est les seuls. Parce que même les populations vont pouvoir peut-être avoir un petit avantage sur le coût si elles travaillent pour la mine ou si le gouvernement local touche un peu d'argent. Mais qu'est-ce que vaut un salaire quand on perd 40 années d'espérance de vie? Qu'est-ce que vaut pour une commune un petit revenu quand il faut nettoyer un site pollué? Qu'est-ce que vaut pour un agriculteur un petit pécule quand la terre est contaminée? C'est-à-dire qu'on, c'est de l'économie à courte vue pour les gens. Les seuls qui en profitent, ce sont les investisseurs de Toronto. Ce sont ceux qui manient ces coupons, ces bouts de papier qui témoignent d'un droit au profit, de pouvoir prélever un profit sur le flux de revenus que génère l'activité d'une mine. Et donc, on peut, à ce moment-là, refuser un certain nombre d'exploitations. C'est ça, être souverain. C'est ça, être debout. C'est ça, être droit. C'est ça, faire de la politique. C'est dire oui, c'est dire souvent non. Faire de la politique, c'est souvent dire non. Et dire non, ça veut dire non à l'uranium, dire non à l'or, surtout quand l'or est exploité sur des échelles vastes. C'est dire non, dans un autre cas de figure, aux diamants, au gaz de schiste, au sable bitumineux, à toutes ces logiques extractivistes qui consistent à prélever un tout petit peu d'actifs dans des territoires énormes. Le coût pour les populations est trop élevé. Et on peut dire non. Et le problème des codes miniers, j'y arrive, c'est que les codes miniers, souvent, ils donnent l'impression qu'on a réglé la question. Les codes miniers réfléchissent à la façon dont on va extraire, mais pas à la façon dont on va se demander si on extrait ou pas. On se dit, il faut extraire, c'est comme la prémisse, il faut extraire. Maintenant, on va extraire en espérant que ça ne pollue pas trop, que les gens touchent un peu d'argent. Mais il y a comme une prémisse qui dit qu'il faut extraire. C'est comme écrit entre les lignes. Alors que l'uranium, non, on devrait dire jamais exploiter de l'uranium. C'est de la folie pure pour les gens. Exploiter de l'or avec du cyanure en mobilisant des millions de mètres cubes d'eau, c'est du vandalisme. Il n'y a pas de pertinence pour les peuples, où qu'ils soient dans le monde. Et l'idée, c'est de passer de la gouvernance à la politique. La gouvernance est le contraire de la politique. La gouvernance consiste à gérer. La politique consiste à penser les principes au nom desquels on gère. Si on commence en gérant, sans réfléchir aux principes au nom desquels on gère, on risque de se faire avoir par ceux qui ont réfléchi les principes avant nous, c'est-à-dire les investisseurs à Toronto qui profitent de la spéculation et de l'exploitation au final. Donc, si on creuse, si on décide qu'on creuse, parce qu'on aura pris le temps de délibérer et de prendre la décision, si on décide qu'on creuse, à supposer que la plupart du temps, on aura dit non, parce qu'on est souverain, on est politique, on n'est pas juste des gestionnaires, on ne fait pas juste gérer l'arrivée d'investisseurs étrangers. On établit un rapport avec les investisseurs étrangers. Et si l'investisseur étranger dit « Moi, je veux ton uranium, je veux ton or, je veux saccager ton système, je veux corrompre ta classe politique, je veux avoir accès à l'eau, avoir accès à l'électricité, avoir accès aux routes, avoir accès à de la main-d'œuvre à bon marché, je veux pas payer d'impôts, je veux pas payer de droits de douane, et je veux pas payer le pétrole. » Ben, on lui dit « Désolé, allez voir le voisin, moi, ça m'intéresse pas. » Et on ferme la porte. C'est faisable, on peut le concevoir en tous les cas. Mais quand on dit oui, si on dit oui, ben là on détermine le rythme, on détermine les conditions, on détermine les rapports, on détermine vraiment aussi le rythme. Les minerais sont des ressources non renouvelables. L'or qui est là, il ne sera pas là si on l'enlève. Et si on le laisse là, ben il sera là dans 20 ans. Mais dès qu'on l'enlève, il ne repoussera plus. Ce n'est pas des carottes. Il y a du carottage, mais ce n'est pas la même chose. Ça ne pousse pas. Donc, du coup, cette richesse-là, elle est là. Et d'une part. D'autre part, les investisseurs, s'ils ne sont pas contents des conditions qu'on établit, ils ne peuvent pas aller chercher l'or malien au Chili. L'or malien, par définition, il est au Mali. Donc, il y a un pouvoir de négociation. Ce n'est pas comme lorsqu'une entreprise cherche un lieu de résidence, parce que là, l'entreprise peut vraiment, s'il s'agit de faire une usine pour concevoir des poupées ou je ne sais trop, des téléphones, l'entreprise, elle peut toujours aller ailleurs, faire exactement la même chose. Mais en ce qui concerne les minerais, là, il y a un pouvoir, un rapport de force clair. Les minerais sont ici de toute façon, là, on n'ira pas les chercher ailleurs. On peut établir un rapport. On a un rapport de force comme État. Je vais peut-être m'en tenir à un dernier point parce qu'on pourrait encore parler longtemps, mais j'ai pris beaucoup la parole. Je finirai juste par un point qui est pour moi une clé par rapport aux enjeux écosystémiques. Vous pouvez développer tous les protocoles que vous voulez, imaginer toutes les commissions que vous voulez, ainsi de suite. D'une part, il y a des produits, il y a des minerais dont on sait que lorsqu'on les exploite, ils génèrent des risques. Il n'y a plus besoin d'études pour savoir qu'une mine d'or à ciel ouvert est une bombe à retardement. Tout le reste, là, c'est en quelque sorte de la gesticulation. On est à même de savoir que c'est dangereux de jouer avec du cyanure à grande échelle sur un territoire. On sait que l'uranium est radioactif et qu'il suffisait de revoir là, les éléments avancés hier par le documentaire qui a été présenté. Qu'à toutes les étapes, il y a des dangers pour la population. Il y a autre chose à penser à cet égard. Mais si on va de l'avant avec des projets du genre, je crois que plutôt que de mettre sur pied, des protocoles qu'on n'arrivera jamais à faire appliquer, et je peux vous parler du cas du Québec, qui est un échec monumental sur ce cas, parce que le Québec est aussi un État minier, d'où je viens. La chose qu'on peut exiger d'une société qui veut exploiter, c'est qu'elle ait un contrat d'assurance d'une société d'assurance internationalement reconnue, forte, et que cette société d'assurance garantisse, et ce sera à la société de payer des cotisations, là, c'est pas à l'État, mais garantisse que lorsqu'elle va quitter le site, ce site-là sera dans le même état qu'il était quand elle l'a trouvé. Et là, vous verrez la difficulté qu'elle aura à trouver une société qui voudra l'assurer. Vous verrez le réalisme s'imposer. J'ai bien hâte de voir IAM Gold ou Barrick Gold ou African Gold Group aller voir une compagnie d'assurance, les grandes allemandes là, ou les grandes américaines, lui dire bon, on voudrait s'assurer là, pour dire que le site là, qu'on va exploiter là, dans 10 ans, quand on va quitter, là, il sera exactement conforme à ce qu'il était avant. Voulez-vous nous assurer là-dessus? On verra qu'est-ce qu'il en est du principe de réalité et de l'ampleur des cotisations mensuelles. Peut-être un dernier point. Il y a des vertus africaines qui sont peut-être pas souvent citées et qui, en ce qui concerne l'exploitation minière, sont plus que jamais requises. C'est la patience, la lenteur, la prudence. Le modèle occidental est un échec. L'Occident est une étoile morte. L'Occident offre un modèle qui est destructeur, qui est porteur d'inégalités, qui est une honte pour l'humanité. 1% des gens qui détiennent 50% des ressources mondiales. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, une telle disproportion de moyens, un tel écart entre les riches et les pauvres. 80% des écosystèmes qui sont menacés sur la planète. 4 écosystèmes sur 5 aujourd'hui sont menacés en raison de l'industrialisation à l'occidental. Les modes de consommation chez nous sont opulents. On essaie de toujours faire consommer plus un consommateur déjà obèse. En l'amenant à jeter des instruments pour qu'ils en achètent d'autres, pour faire tourner une machine qui est totalement irresponsable. Et la dernière chose que l'on souhaite, c'est de voir des peuples qui ont échappé à ce modèle-là à essayer de s'y conformer à leur tour. Ce n'est pas viable. Le jour où chaque Chinois voudra une voiture, la planète va exploser. Aujourd'hui, si on voulait accorder le mode de vie standard nord-américain à chaque individu sur la planète, il faudrait 5 planètes simplement en ressources pour alimenter ce mode de vie-là. Ce mode de vie-là est un échec. Et nous tournons, nous, peuple du monde, d'une part vers ce qu'il peut y avoir encore d'intéressant et de critique en Occident, mais d'autre part, bien sûr, vers d'autres formes de créativité. Et très souvent, dans les mouvements militants, dans les mouvements alternatifs, dans les mouvements progressistes, on cite le Buen Vivir d'Amérique du Sud, on cite des organisations comme les Tontines, on cite des formes de vie en famille, en collectivité, qui viennent d'Afrique ou des Premières Nations en Amérique. Tout simplement parce que nous sommes avides de modèles, partout dans le monde, nous sommes avides de modèles qui ne sont pas ceux d'un Occident perverti, corrompu et destructeur. Et je veux dire, vraiment, la révolution commence ici.